Chroniques algériennes. Une émission proposée par Abdelmadjid Chéri pour faire connaître les hommes qui ont fait l'Algérie par leur œuvre, leur lutte, leur souffrance et les événements qui ont donné à l'Algérie sa place dans l'histoire mondiale. Abdelmadjid Chéri vous propose dans cette émission de mieux connaître les hommes qui ont fait l'Algérie, mais également les idées qui ont fait l'Algérie. Ces hommes, quelques-uns d'entre eux, l'Arbi Tbessi, Mohamed Kharoubi, Mohamed Abdelkrim Mghili, Raïs Hamidou, Ahmed Reda Houhou, Abbas Lagrour, Mohamed Bouzidi et d'autres encore qu'il vous présentera tout au long de cette série Chroniques algériennes.
Ce soir, dans Chroniques algériennes, deuxième partie de l'Arbi Tbessi avec Abdelmadjid Chéri. Abdelmadjid Chéri, dans la première partie consacrée à l'Arbi Tbessi, nous avions évoqué sa naissance à Tébessa, ses études, d'abord en Algérie, ensuite en Tunisie et ensuite en Égypte. Puis retour en Algérie, dans une Algérie du début du siècle particulière, avec une action politique, une action culturelle et une action pédagogique. Nous avons vu surtout le début du réformisme musulman auquel l'Arbi Tbessi a participé. Et nous avons été jusqu'au moment où on pensait à la création de l'association des ulama. Alors, Abdelmadjid Chéri, comment s'est fait la création de cette association et quel a été le rôle de l'Arbi Tbessi?
Cheikh l'Arbi Tbessi va y adhérer dès le départ, puisqu'il en est l'un des créateurs, avec Cheikh Abdelhamid Mbedis, que nous évoquerons peut-être une autre fois. Mais le mouvement réformiste algérien est un mouvement tout à fait particulier à l'Algérie, vu le contexte algérien. Les pays arabes, par exemple, de ce moment-là, la Tunisie, le Maroc ou l'Égypte, n'avaient pas de problème en ce qui concerne une dualité d'enseignement, par exemple. Une présence
le statut
asphyxiante.
Le statut même de la présence.
Le statut même de la présence n'était pas le même. Il n'était pas le même du tout. Le protectorat
n'est pas.
Il reconnaît quand même l'existence d'un État
avec
sous
lequel
protection, mais il est là, l'État. Donc la situation de l'Algérie, c'était une situation tout à fait spéciale. C'est pour cela que même le système colonial qui a été appliqué en Algérie est un système particulier dans le cadre du système général français.
Et de la colonisation.
De la colonisation française.
Oui.
C'est un système tout à fait particulier.
Et il y a aussi un autre point, je ne sais pas, j'aimerais soulever aussi ce point-là, c'est la manière dont les agréments ont été donnés. C'est-à-dire que l'association des ulama a eu son agrément dans un cadre républicain de la Constitution française.
Oui.
Et donc c'est selon le code de 1901 qu'il a eu accès à cet agrément.
Oui.
Donc, c'est dans un cadre laïque quand même. C'est-à-dire, voilà une association religieuse, c'est réformiste,
oui,
qui a donc peut-être sa particularité.
C'est par son objet qu'elle... parce que le système colonial, tout en niant à l'Algérien toute existence juridique, puisqu'il en fait, il fait de son pays partie intégrante de la France, donc il le noie dans la République française, puisque non seulement il ne lui donne pas la citoyenneté, et ça, soit dit en passant, les Algériens ne l'ont pas demandé, ils n'en voulaient pas non plus, à part certains groupuscules, qui étaient l'organisation des élus algériens, ou ce mouvement Jeune Algérie, qui voulait à égalité de... donner les mêmes chances à tout le monde. C'est-à-dire, si je fais mon devoir de servir la France dans l'armée, donc je suis français et je dois bénéficier de tous les droits y afférents. Bon. Les Algériens ne l'ont pas demandé.
Ils situaient leurs revendications en dehors de ce champ précis.
En dehors de ce champ et en dehors de tout champ nationaliste. Bon. Mais l'organisation, le mouvement réformiste, lui, s'inscrit justement dans le cadre du respect de la convention de capitulation de 1830, d'une part, et d'autre part, il s'inscrit dans le refus colonial de l'enseignement de l'arabe, de l'enseignement de la religion, de la mainmise sur les biens des Habous, etc. Alors donc, dans tout cela, la République laïque, si elle reconnaît aux autres religions une certaine place et un certain nombre de droits, il est tout à fait normal qu'elle reconnaisse également aux musulmans les mêmes droits et leur donne les mêmes facilités. Bon, ça n'a pas été le cas, puisque il y a discrimination totale. Mais malgré cela, l'organisation a été constituée. C'est une association qui n'est pas politique. Il faut le souligner. C'est une association qui a pris sur elle d'instruire les enfants algériens.
Et d'ailleurs, c'était son métier. Il était enseignant.
Il était lui-même, il était enseignant, puisque en revenant du Moyen-Orient, il s'est installé du côté de Sig et a créé une école libre. Ensuite, il est retourné à Tébessa, où il a créé une autre école qui est Madrasat Tahdhib al-Banin wal-Banat. Cela démontre un peu le réformisme. Tahdhib al-Banin wal-Banat. C'est-à-dire les garçons et les filles.
Et les filles, oui.
Vous savez que dans
on parlait de mixité déjà.
On parlait de mixité, oui, la mixité existait. Et l'association des oulémas a fait énormément pour justement lever le tabou sur l'instruction de la jeune fille. Les écoles libres de l'association des oulémas d'Algérie ont été ouvertes et ont reçu aussi bien les filles que les garçons. Cheikh l'arbitre Bessi donc va activer dans ce mouvement, mais il va essayer de se limiter à sa fonction d'enseignant. Bon, la situation de l'Algérie ne permettait pas le mouvement national évoluer. Il dérangeait par ses revendications, et la revendication essentielle étant l'indépendance et la constitution d'une armée algérienne, la constitution d'un parlement algérien. Cela ne pouvait pas laisser les autorités françaises indifférentes. Voilà qu'une association culturelle s'installe juste après les fêtes du centenaire. Justement, les fêtes du centenaire vont déterminer un certain nombre de positions, parce que beaucoup d'Algériens qui avaient un peu côtoyé les colons, l'école française, ce qui s'écrivait, ce qui se disait, la représentation algérienne dans les assemblées, surtout les délégations financières de ce moment-là, tout ceci, les élus algériens dans les municipalités, par exemple, tout ceci amène un débat, surtout au vu de ce qui s'était passé lors des fêtes du centenaire, où on a présenté le peuple algérien comme étant un peuple soumis, un peuple sans aucune volonté, un peuple qui s'était résigné à accepter la domination française. Et naturellement, l'honneur et la dignité des Algériens ne pouvaient pas admettre un tel étalage de soumission. Alors, les divers mouvements qui existaient à ce moment-là vont essayer de se rapprocher les uns des autres. Et Cheikh l'arbitre Bessi va être amené par la force des choses à participer à ces rapprochements. L'on va discuter de l'avenir. Quelle Algérie ? Faut-il admettre le contexte des fêtes du centenaire et continuer à subir le code de l'indigénat ? Ou alors, il faut trouver d'autres solutions et peut-être ouvrir le dialogue avec la colonisation. Essayer de trouver un cadre d'entente, puisque le peuple algérien, à ce moment-là, était dans l'impossibilité de s'insurger et de prendre les armes. Il était mis dans une misère telle que réfléchir au pain quotidien lui prenait tout son temps. Mais ces mouvements se sont réunis, se sont rassemblés, eu égard à certaines ouvertures qui avaient été faites par certains gouvernants français. Et par exemple, le projet Blum-Violette de 1936 et la constitution de ce qu'on a appelé le Congrès musulman. Donc, ce congrès va réunir les différents mouvements, le mouvement des oulémas, le mouvement du Parti du peuple algérien qui a succédé à l'étoile nord-africaine, le mouvement de Farhat Abbas, l'Union populaire algérienne, les élus algériens avec Dr Ben Jelloun, et tout ce petit monde va constituer une délégation qui va aller à Paris pour essayer de demander des réformes. Il ne s'agit pas encore de demander l'indépendance. Il s'agit seulement de demander des réformes. Abdelhamid Mbadis faisait partie de cette délégation. Bon, mais Abdelhamid Mbadis va, au retour, va être déçu et il va durcir un peu la position du mouvement réformiste qui, tout en continuant son œuvre d'enseignement, son œuvre de sensibilisation et de formation, il va continuer également la guerre à la pensée traditionnaliste, sclérosée, qui était à ce moment-là présidée par les Zawiyas, certaines Zawiyas, il faut le dire. Donc, le mouvement réformiste, et Cheikh Larbi Tbessi faisait partie aussi bien de ces tractations entre tous les mouvements, il était toujours présent. C'est un monsieur incontournable.
Mais justement,
de par sa position et de par également la fonction qu'il occupait au sein du mouvement, puisque Cheikh Abdelhamid Mbadis s'était inquiété un jour qu'il n'y ait pas de jurisconsulte en Algérie, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit la référence en matière de religion, et demandant à Cheikh Bachir Ibrahimi qui on pourrait désigner à ce poste, et Cheikh Bachir Ibrahimi lui a dit il n'y a pas mieux que Cheikh Larbi Tbessi, parce que c'est sa formation est une formation très solide, d'une part. Il avait la logique des philosophes. Il avait également le franc-parler. Il avait la notoriété.
Et peut-être aussi la pédagogie.
Aussi bien la pédagogie, puisque c'est un enseignant. Il avait un peu tout cela. Et il avait la droiture. Et il avait l'abnégation et il avait la simplicité. C'est pour cela que Cheikh Abdelhamid Mbadis l'a désigné comme Mufti al-Diyar al-Jazairiya. C'est un poste très important qui, dans un État musulman, comme par exemple la période avant 1830, le Mufti était le deuxième personnage de l'État, après le Dey. Donc, sur le plan religieux, la position du Mufti était pratiquement meilleure que celle de Cheikh Abdelhamid Mbadis ou de Cheikh Bachir Ibrahimi.
Si on devait établir une
hiérarchie. C'était la référence.
Oui.
C'était la référence. Donc, dans ces conditions-là, il ne pouvait pas ne pas participer à toutes ces tractations, même si elles avaient un caractère politique.
Et quelles furent ces positions par rapport à, justement...
Eh bien, justement, ces positions-là, nous les connaîtrons quand la révolution de 1954 va éclater, parce que c'est un monsieur de l'ombre. À la mort de Cheikh Abd Hamid Mbedis en 1840, le mouvement réformiste lui-même, et surtout l'association des oulémas algériens, était tombé dans une crise, parce qu'elle avait perdu son leader, elle avait perdu son porte-drapeau. Cheikh Abd Hamid Mbedis n'était pas c'est pas une moindre perte, c'est une perte énorme pour le peuple algérien et pour le monde arabe. Et Cheikh Bachir Ibrahimi a pris la suite. Cheikh Bachir Ibrahimi, c'est une autre conception. Il était plus ouvert, mais il était plus tranchant. D'ailleurs,
peut-être plus politique.
Beaucoup plus politique. Il avait même orienté le mouvement à prendre des positions politiques, tout en restant dans le cadre de la législation.
D'association
culturelle. Mais tout ce qui touchait à la situation de l'Algérien dans sa vie quotidienne, aussi bien que dans sa vie spirituelle, touchait directement à l'association. Et c'est dans ce sens-là que les tractations qui vont continuer à se faire entre les divers mouvements vont également amener Cheikh Al-Arbit Bessi et Cheikh Al-Bachir Ibrahimi à participer à ce qu'on a appelé les préparateurs du manifeste algérien de 1943, qui a été présenté par Farhat Abbas aux alliés en 1943, parce que les Algériens avaient entendu dire et avaient entendu également les déclarations des divers leaders des alliés que l'on s'acheminait à préparer un nouvel ordre international où le système colonial serait totalement remis en cause, c'est-à-dire œuvrer pour l'autodétermination des peuples. C'est dans ce contexte-là que le manifeste a été préparé.
Et la conséquence, c'est qu'on avait dit que les Français, à l'époque, avaient considéré que ce manifeste-là avait été rédigé et présenté par ce qu'ils appelaient les pro-américains ou les agents de
Américains. Oui, on a beaucoup épilogué là-dessus. On avait même dit que le représentant américain qui était Robert Murphy à Alger aurait été à la base des idées qui se trouvaient dans le manifeste. Ce n'est pas vrai, et d'ailleurs Farhat Abbas s'en est défendu, et c'était l'évolution même de la situation en Algérie qui avait dicté ces règles-là. Même si le mouvement national, c'est-à-dire représenté par le PPA, tout en admettant et tout en acceptant de faire partie de ce manifeste, puisqu'il y a participé. Il y a participé, et participé grandement, puisqu'il y a fait passer un certain nombre d'idées. Mais seulement, pour lui, c'était une expérience. Voyons ce que va donner l'action politique. Tout en sachant, au fond de lui-même, que l'action politique n'aboutira à rien.
Et est-ce que quand Farhat Abbas a créé l'AML, si je me souviens bien.
Oui.
Est-ce que l'Arbit Bessi, cher l'Arbit Bessi, en a fait aussi partie?
Bien sûr. Il en a fait partie au nom de l'association des oulémas. De même que le PPA. Le PPA en faisait partie. Les Amis du Manifeste de la Libération et de la Liberté, c'est un mouvement rassembleur de tout ce qui pouvait constituer un interlocuteur vis-à-vis des autorités françaises pour pouvoir s'acheminer vers la libération.
Alors,
quel que soit le statut qui sera donné à cette libération, le PPA voulait une indépendance totale, c'est un fait. Les oulémas voulaient une évolution, mais au bout, l'indépendance. Donc, Cheikh Al-Arbit Bessi a fait partie non seulement des discussions, mais également des décisions.
Et donc a fait aussi des propositions.
Il a fait des propositions au nom de l'association des oulémas.
Alors justement, entre le moment de la création de des Amis du Manifeste et
de la Liberté,
il y a eu cette fameuse... On en arrive à 1944, où il y a un véritable bouillonnement, avec pendant pratiquement, à partir du mois d'avril, mai, énormément de rumeurs s'agissant de manifestations qui seraient éventuellement prévues, etc., avec des manipulations, avec des menaces de l'autre côté, des menaces de répression. Et...
Bon, pour ne pas déborder sur les événements du 8 mai, qui constituent un sujet très, très vaste, très important, qu'on ne peut pas évacuer comme cela, mais pour nous limiter à notre propos d'aujourd'hui, nous dirons tout simplement que, en 1944, l'issue de la guerre mondiale ne faisait plus de doute. De même que l'installation ou la création d'un nouvel ordre international était fin prête. L'évolution du système colonial était décidée par les Alliés, restait la position française. La position française était intraitable. Et surtout en ce qui concerne l'Algérie était totalement ignorée. Alors, ces fameuses promesses, le général de Gaulle est arrivé à Constantine en 1944, il a fait un discours où il promet quelques réformes.
En reprenant les promesses du projet Blum-Violette.
Un peu, oui, un peu. C'est-à-dire accorder la citoyenneté à un certain nombre d'Algériens, comme si la libération ne venait que de cela. Bon. Mais les Algériens avaient reçu des assurances de la part des Alliés en disant que le monde d'après la guerre ne sera jamais celui qui a prévalu avant la guerre. Donc il y avait énormément d'espoir et les autorités coloniales en Algérie savaient pertinemment que la fin de la guerre allait connaître en Algérie une situation tout à fait nouvelle et explosive. C'est pourquoi ces autorités-là se sont préparées à la répression. Et même des manœuvres militaires avaient été faites en 1944, en octobre 1944, pour préparer justement la répression. Cela est tout à fait connu et il ressort de rapports français. Bon, mais l'association elle-même va s'impliquer dans les événements de mai 1945. Elle va connaître la répression. Cheikh Bachir Ibrahimi sera emprisonné, au même titre que Farhat Abbas, que Massali, etc. Mais c'est l'évolution d'après 1945 qui est intéressante, parce que à partir de 1945, le mouvement national a défini son objectif. Les événements de mai 1945 ont démontré qu'un mouvement de masse ne pouvait pas arriver aux aspirations populaires, parce que la répression serait très forte et le résultat n'était pas garanti. Alors, c'est à ce moment-là que on crée l'organisation spéciale,
L'OS,
que l'association elle-même des oulémas admet finalement qu'on peut être membre de l'association et militer au sein du nouveau parti qui fera suite au Parti du peuple algérien, le MTLD.
Oui.
Donc, on va retrouver un certain nombre de dirigeants de l'association qui seront également des militants et des militants assez importants dans la hiérarchie, au sein du MTLD. Cheikh Larbit Bessi est parmi ceux-là. Arrivent les années 50, où Cheikh Bachir Ibrahimi, qui est président de l'association, quitte l'Algérie pour aller dans un périple qui va le conduire dans pas mal de pays moyen-orientaux. Et Cheikh Larbit Bessi va assurer la direction de l'association. C'est ainsi que 1954 arrive, la révolution éclate, et l'appel du 1er novembre demande à tous les groupes, à tous les partis, de rejoindre le FLN, l'ALN, en tant qu'individu et sans appartenance aucune, sans appartenance politique aucune. Cheikh Larbit Bessi, n'ayant pas reçu de directive du président de l'association pour se déterminer, attend et finalement réunit le comité directeur de l'association et déclare à ce comité directeur que pour lui, il dégage tous les membres de l'association, aussi bien les membres dirigeants que les enseignants qui sont à la base, que les élèves qui sont dans les écoles de Jamaït Ulama, de l'association des Ulémas, il les dégage de tout contrat moral à l'égard de l'association et que chacun prenne ses responsabilités. S'il veut rejoindre l'ALN ou le FLN, tout le monde est libre de rejoindre la lutte nationale. C'est ainsi que lui-même rejoint officiellement le FLN et va militer au sein du FLN. Les autres membres vont rejoindre l'ALN ou le FLN, cela est connu, et l'association elle-même ne prendra position qu'en 1956, où elle rejoint le FLN en tant qu'association, donc en se mouvant à l'intérieur du FLN. Reste maintenant la position de Cheikh Larbit Bessi pendant la Révolution. Il estime que, de par la position qu'il occupait, puisque nous avons dit qu'il avait été nommé Mufti Diyar al-Jazairiya, il reste la référence. C'est un personnage qui ne peut pas se taire, ne peut pas réagir à certains événements. Et l'occasion lui est donnée de réagir quand Guy Mollet, le président du Conseil français, arrive à Alger en février 1956. Il reçoit un certain nombre de personnalités et repart en France en disant « Je me suis constitué une opinion sur ce qui se passait en Algérie. » Cheikh Larbit Bessi n'ayant pas été invité, publie un communiqué qui a été publié dans Le Monde, dans le journal Le Monde, le 25 février 1956, et où il y est dit « Le gouvernement français » Et ça, c'est Larbit Bessi qui parle, donc, dans son communiqué qui a été publié. Le gouvernement français et les autorités françaises en Algérie n'ont aucun contact avec le peuple. Leur seul contact se limite à certains individus ou groupes très marginaux. Par exemple, le président du Conseil, lors de son dernier passage à Alger, n'a rencontré aucune personnalité ayant une représentativité réelle. Mais il s'est réuni avec quelques personnes dont la position et la réputation sont douteuses. Leur seule qualité est celle de tenant ou instrument du pouvoir actuel. Ceci concerne aussi bien les affaires civiles que religieuses. La poignée de mufti que l'homme politique français a reçue sont connus pour leur soumission vile au pouvoir en place. Aussi est-il de notre devoir de nous demander comment le président du Conseil français a-t-il ainsi pu comprendre la question algérienne en se privant en même temps de la vie de gens avertis. L'association des oulémas n'a pas été invitée par les autorités françaises, et notre propos n'est pas de protester contre cela. Mais ce n'est qu'une observation, car même si nous avions été invités à rencontrer le président du Conseil français, nous aurions refusé catégoriquement une telle invitation, car nous sommes fermement convaincus que tout contact entre la France et nous ne pourra avoir lieu qu'après la proclamation de l'Algérie comme république démocratique et parlementaire, qui sera dirigé par tous les représentants du peuple algérien. Notre position est connue du gouvernement français et du ministre résident. Notre association se considère comme représentant les aspirations de 10 millions d'Algériens d'un point de vue religieux et culturel. Bon, une telle déclaration, naturellement, ne peut pas ne pas irriter les autorités françaises qui, d'ailleurs, un mois après, vont le faire enlever, par une organisation tristement connue, qui est l'organisation de la Main Rouge, laquelle organisation existait depuis les années 45, qui est intimement liée à l'armée française. Et donc, Cheikh El-Bessi est enlevé dans la nuit du 3 au 4 avril 1956, et dans son logement du quartier Belcourt, actuellement Hayy Belouzdad, ils l'ont enlevé vers une destination inconnue. Et depuis, on n'a pas retrouvé son corps. Et nous le considérons comme étant le shahid qui n'a pas de tombe. Il a connu le sort de beaucoup d'Algériens, comme Ahmed Reda Houhou, qui a connu le même sort exactement. Et peut-être pour conclure, Cheikh El-Arbi Tbessi mérite plus qu'une émission. Il sera peut-être possible une autre fois de revenir et d'évoquer sa mémoire. Mais je dirais que son compagnon et son chef avaient écrit, c'est-à-dire Cheikh Béchir Brahimi, avait écrit un jour un article dans les années 50 en parlant de l'Algérie. Il disait qu'il a été écrit dans mon destin que je ne posséderai pas, que je ne posséderai de ta terre, même pas la mesure d'une main, est-ce qu'il y est écrit que j'y aurai un jour une tombe ? خطت الأقدار في صحيفتي ألا أملك فيك شبرا فهل في صحيفة الأقدار أن أحوز فيك قبرا. Bon, Cheikh Béchir Brahimi a eu sa tombe en Algérie. Son vœu a été exaucé. Mais Cheikh El-Arbi Tbessi, qui a été enlevé et qui a été ravi à son peuple, à un moment où ce peuple en avait véritablement besoin, est mort en Moujahed, en militant de la cause nationale. Et s'il n'a pas de tombe dans ce pays qu'il a tant aimé, et qu'il a servi avec abnégation, puisse-t-il trouver dans le cœur de tout Algérien cette tombe pour qu'il soit honoré, il soit connu et aimé.
Ben espérons que sa tombe sera notre mémoire. Merci beaucoup, Abdelmadjid Chéri. À mercredi prochain.